voyage avec le Seigneur de 12 mois. Et nous avons besoin chaque fois d'écouter la parole de Dieu pour nous restaurer, pour nous retremper dans les grandes vérités bibliques. Et ce matin, je voudrais vous parler d'un autre voyage. C'est l'exode du peuple d'Israël. Je voudrais qu'on lise ensemble dans le livre de Exode au chapitre 14. Et nous lirons du verset 9 au verset 31. Exode 14. Alors, lisons au nom de Jésus. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. Le message de ce matin, je pourrais l'intituler « L'Éternel combattra pour vous ». Il s'agit ici de l'histoire donc du peuple d'Israël, des enfants de Dieu. Et cette histoire se passe après leur sortie de l'Égypte. Nous savons tous qu'ils avaient été en Égypte pendant 4 siècles. Ils étaient esclaves là-bas. Ils étaient dans la servitude. Et cette histoire a été écrite donc au moment où ils sortent donc de l'Égypte et ils partaient donc vers la terre promise, vers la liberté. Et ils sont arrivés à un lieu qu'on appelle Pi-Hahiroth. Retenez bien ce nom, on va y revenir, Pi-Hahiroth. Et là, à Pi-Hahiroth, Dieu leur demande de camper là. C'était leur premier camp après la sortie d'Égypte. Et donc, ils devaient camper là, à Pi-Hahiroth, et c'est au bord de la mer. Entre-temps, Pharaon, qui n'était pas d'accord que eux s'en aillent, qu'ils quittent l'Égypte, qu'ils abandonnent donc la servitude, il décide donc de les poursuivre. Il prend donc son armée, ses chars, ses cavaliers, et ils poursuivent les enfants d'Israël. Alors finalement, le peuple de Dieu se trouve un peu comme coincé. Ils sont au bord de la mer, elle est infranchissable, c'est un obstacle naturel qu'ils ne pouvaient pas franchir, ils ne savaient pas comment traverser la mer. Et de l'autre côté, il y a l'armée égyptienne qui arrive. C'est des ennemis, ils ne viennent pas pour des amabilités, ils viennent pour les rattraper, pour les ramener en Égypte. Et donc, à ce moment-là, ils décident qu'ils sont coincés. Enfin, ils constatent qu'ils sont coincés. Ils sont au pied du mur. Ils sont comme pris entre deux feux, entre le marteau et l'enclume. Et ils ne savent pas ce qu'il faut faire. On nous dit au verset 10 qu'à ce moment-là, il y eut une grande frayeur. Verset 10. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils ont eu peur. Parce qu'ils se sentaient perdus, ils sont au pied du mur. Il n'y a pas de solution. Il y a la mer d'un côté. Si tu plonges, tu vas te noyer. Tu ne peux pas la traverser non plus. Et en face, il y a des ennemis qui arrivent. Et donc, ils sont au pied du mur. Ils ont eu peur. Et on voit qu'il y a la panique qui gagne le peuple de Dieu. Ils sont paniqués, ils sont troublés. Et on voit à partir du verset 11 qu'ils commencent à s'accuser les uns les autres. Particulièrement, ils accusent Moïse. Ils disent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Alors ce verset 12, ils disent là qu'ils étaient mieux en Égypte plutôt que d'être là dans le désert et de mourir là. Alors que justement en Égypte, ils avaient crié à Dieu. Ils avaient imploré Dieu parce qu'ils voulaient quitter cette servitude. Ils voulaient sortir de l'esclavage. Mais voilà qu'ils sont sortis, ils sont en train de partir vers la terre promise. Et là, parce qu'il y a un danger qui arrive, ils disent à Moïse, mais là-bas, on était mieux. Fallait mieux nous laisser là-bas que de nous amener mourir ici dans le désert. Donc on voit qu'il y a la panique dans les rangs et on commence à s'accuser les uns les autres. C'est une situation dramatique. C'est une situation difficile. Mais c'est une situation dans laquelle chacun de nous peut se retrouver. Être comme ça au pied du mur. Être comme ça dans une situation où tu ne vois pas le bout du tunnel. Où tu ne sais pas comment t'en sortir. C'est une situation qui peut toucher chacun de nous. Peut-être que tu as des problèmes dans ta vie. Peut-être que tu es malade depuis longtemps. Tu prends des soins et il n'y a pas de solution. Peut-être que tu envisages le pire. Tu te sens au pied du mur parce qu'il n'y a pas de solution. Peut-être que tu as des problèmes professionnels qui ne s'arrangent pas. Peut-être que tu as des problèmes familiaux qui ne s'arrangent pas. Et j'ai béni le témoignage de la sœur Charlotte, c'est ça? Arlette, tout à l'heure, qui avait des difficultés avec son frère. C'est des choses qui peuvent arriver à chacun de nous, de se retrouver comme ça, comme au pied du mur, coincé, devant un mur infranchissable, avec des ennemis qui te pourchassent, des ennemis qui te menacent, qui parlent de toi, qui profèrent des menaces. C'est des choses qui peuvent arriver à chacun de nous. Et la peur peut aussi nous gagner. La panique aussi peut nous gagner, comme cela est arrivé aux enfants d'Israël. Mais c'est des choses qui peuvent aussi arriver à l'Église même tout entière. L'Église aussi peut se retrouver comme ça à un moment où il y a des problèmes, des difficultés, des soucis de tout genre. et on ne trouve pas de solution, on ne sait pas comment s'en sortir, on ne voit pas le bout du tunnel. L'Église peut se retrouver comme ça aussi, comme au pied du mur. Souvent, nous entendons des églises qui éclatent, les gens se divisent parce que justement, il y a des problèmes et qu'on n'arrive pas à trouver des solutions. Alors, il est important de constater ici que c'est Dieu qui a demandé aux enfants d'Israël de camper à Pi-Hahiroth. Cette localité n'a pas été choisie comme ça par les enfants d'Israël. C'est Dieu qui leur dit, il faut camper là. Verset 2. Parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qui le campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Donc c'est Dieu qui choisit ce lieu pour que le peuple de Dieu campe là. Mais c'est en même temps lui qui endurcit le cœur de Pharaon et qui le pousse à poursuivre les enfants d'Israël. Et ça, nous le voyons un peu plus bas au verset 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Alors ça peut déstabiliser parfois. Comment c'est le peuple de Dieu? C'est Dieu qui les fait sortir de l'Égypte. C'est Dieu qui veut bien les amener vers la terre promise. Et il avait dit, je vais vous amener dans un lieu où coule le lait et le miel. Et puis voilà, il leur fait camper quelque part. Et en même temps, il suscite un ennemi, un agresseur. Il endurcit son cœur pour qu'il vienne les poursuivre. C'est un peu paradoxal, c'est un peu troublant. Mais nous voyons que c'était la volonté de Dieu. Nous voyons que Dieu devait tirer une gloire dans cette situation. Parce que dans ce verset 4 que je venais de lire, il est dit, et les Égyptiens, non, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. C'est-à-dire que Dieu peut permettre comme ça des situations dans nos vies. Il peut permettre comme ça que nous passions par des difficultés, par des moments difficiles, mais c'est qu'il a un plan, il a un objectif à atteindre. C'est qu'il a quelque chose à faire dans cette situation. C'est que dans cette situation, il va tirer sa gloire. Et ici, justement, lorsqu'il permet comme ça que le peuple de Dieu campe quelque part, il les met là en disant restez là, campez là, et qu'il envoie des ennemis, eh bien, il avait un plan. Il avait quelque chose à faire. Et ça devait passer par cette situation-là. Donc, dans nos vies aussi, Dieu peut permettre des choses. Pour une raison ou une autre, il peut permettre que l'on passe par des difficultés. Il peut permettre que l'on connaisse des problèmes, parfois difficiles à vivre, difficiles à supporter. Mais c'est Dieu qui permet que tu passes par là, parce qu'il a quelque chose à faire dans ta vie, parce qu'il a un objectif à atteindre dans ta vie. Souvenons-nous de Job. Job, la Bible nous dit. C'était quelqu'un de droit, quelqu'un d'intègre, quelqu'un de juste. Mais nous savons tous que Dieu a donné l'autorisation à Satan de le toucher, de le cribler. Nous lisons cela dans Job 1 au verset 12, où il est écrit, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Donc Dieu a donné une autorisation à Satan pour toucher Job, pour cribler Job. Lui qui était juste, qui était droit. Mais Dieu donne l'autorisation, il donne une ouverture. Et nous savons qu'après cette autorisation, Job justement a connu des situations difficiles, des situations dramatiques. Job a perdu tous ses enfants en une journée. Job a perdu tous ses animaux, tout son élevage en une journée. Ensuite, Job est tombé malade. Et même pendant qu'il est malade, sa femme dépassée lui dit, maudit Dieu et meurs. Elle n'a pas dit, maudissons Dieu et mourons parce que nous sommes dépassés tous les deux. Non, 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 elle dit, maudit Dieu et meurs. Et Job a dû supporter tout cela. Et nous savons qu'à la fin, eh bien, Dieu s'est glorifié dans cette situation parce qu'il a restauré Job, parce qu'il a redonné à Job une prospérité plus grande que celle qu'il avait avant. Donc, Dieu peut permettre que nous puissions passer par ce genre de choses, par des difficultés, par des problèmes difficiles, mais il a un plan à atteindre, il a un but à poursuivre, et nous devons supporter ce genre de choses. Lorsque le peuple de Dieu s'est trouvé donc dans cette situation, qui a eu la peur, qui a eu la panique, que l'on commençait à se retrouver, à s'accuser les uns les autres, eh bien Moïse a parlé au peuple à ce moment-là. Lorsque Moïse a été accusé, lorsque Moïse a vu qu'il y a la panique, il y a la peur, il a parlé au peuple de Dieu à ce moment-là. Et il a dit, nous le voyons au verset 13 et au verset 14, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Voilà la parole que Moïse apporte au peuple de Dieu. Une parole merveilleuse, une parole de consolation, une parole d'encouragement. Mais essayons un peu de nous représenter la situation de ce peuple de Dieu. Voilà des gens qui pendant 4 siècles ont été dans l'esclavage, dans la souffrance, dans la servitude. Ils ont supplié Dieu. Et Dieu écoute la prière. Dans Exode 3, Dieu dit, voilà, j'ai écouté votre prière, je viens vous délivrer, je viens vous sortir de l'esclavage, et je vais vous amener dans un lieu où coule le lait et le miel. Et donc, les voilà qui sortent de l'Égypte, ils sont dans la joie de partir, ils sont dans la joie de retrouver la liberté, et puis arrivés en route, ils sont bloqués devant la mer, ils ne savent pas la traverser, et puis il y a des ennemis qui arrivent. Ils se sentent en danger, ils se sentent au bout, ils sont vraiment au pied du mur. Et puis voilà, Moïse vient, il dit, ne craignez rien. Ce n'est pas facile, hein? Lorsque vous êtes dans une situation comme ça, difficile, et puis bon, voilà, quelqu'un vient, il dit, ne crains rien, reste en place. Souvent dans ce genre de situation, c'est plutôt la débandade, on a envie de partir n'importe où, de fuir. Parce qu'il y a le danger qui est là, il y a la mer qui est là, on ne peut pas trouver des solutions. Et c'est difficile de contenir comme ça toute une foule. Mais Moïse leur dit, ne craignez rien, restez en place, l'Éternel combattra pour vous, mais vous, gardez le silence. Ce n'est pas facile de garder le silence dans ces circonstances. Ce n'est pas possible de rester serein dans ces circonstances, on est toujours troublé. Mais c'est ce que Moïse leur demande. Donc il fallait avoir beaucoup de foi pour rester calme à ce moment-là. Il fallait beaucoup de foi pour rester serein, pour garder le silence. Mais ils ont gardé le silence et finalement, nous voyons que Dieu a agi là-bas de manière spectaculaire. Dieu a fait des choses extraordinaires ce jour-là. Et nous voulons retenir 4 faits de l'action de Dieu ce jour-là à Pi-Hahiroth. Un premier fait que nous trouvons au verset 20, nous voyons là que Dieu a retardé, a bloqué l'armée égyptienne. L'armée égyptienne qui se rapprochait du peuple de Dieu, eh bien, Dieu pendant une nuit a bloqué son avancée pour qu'elle ne puisse pas atteindre le peuple de Dieu. Verset 20. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Le peuple d'Israël était bloqué là. Les enfants de Dieu étaient bloqués, ils ne pouvaient pas bouger. Et les Égyptiens, eux, ils avançaient. Mais là, Dieu a bloqué leur avancée. Ils ne pouvaient plus aller plus loin, ils ne pouvaient pas atteindre les enfants d'Israël. Ça, c'est la première action qui nous montre l'intervention de Dieu. Une deuxième action, nous trouvons au verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Dieu ouvre un passage dans la mer. Dieu ouvre un boulevard dans la mer. Les eaux de la mer se séparent, un mur d'eau de mer à droite, un mur d'eau de mer à gauche, et un boulevard s'ouvre devant les enfants d'Israël. Ça c'est extraordinaire, c'est spectaculaire. Voilà des gens qui étaient coincés, ils étaient là au bord de la mer, ils ne savaient pas comment passer, et brutalement, il y a une ouverture. La mer s'ouvre comme ça en deux. Ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment une action spectaculaire, une action spéciale de Dieu en faveur de ses enfants. Une troisième action, verset 24 et verset 25, nous voyons que Dieu crée le désordre dans le camp des ennemis. Dieu crée le trouble dans le camp des ennemis. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Pendant que l'armée d'Égypte poursuit Israël, Dieu crée le désordre dans son camp. Dieu enlève les roues au niveau des chars. Dieu rend la marche difficile. Ils ne peuvent plus avancer. Il faut tout le temps réparer les roues. Donc Dieu crée le désordre dans le camp des ennemis, dans le camp de ceux qui pourchassent les enfants de Dieu. Et enfin, une quatrième action, au verset 28, nous voyons que Dieu finalement extermine le camp des ennemis. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Tous sont morts, tous ont été engloutis. Tous ceux-là qui se sont élevés contre les enfants de Dieu, tous ceux-là qui ont pourchassé les enfants de Dieu, ont tous été engloutis. Une action spectaculaire. Une intervention de Dieu spectaculaire. Et c'est des choses, justement, que Dieu peut faire dans nos vies. Comme il l'a fait pour les enfants d'Israël. Comme il l'a fait ce jour-là à Pi-Hahiroth, il peut aussi le faire pour toi et moi. Nous pouvons nous aussi nous trouver dans des situations difficiles, comme je l'ai dit. Mais si nous faisons comme les enfants d'Israël, Dieu peut faire ces mêmes choses aussi dans nos vies. Dieu peut aussi nous délivrer comme ça, de manière spectaculaire, comme il l'a fait pour les enfants d'Israël. Peut-être que tu es dans une situation désespérée. Peut-être que tu te trouves au pied du mur et sans solution. Tu es paniqué, tu penses à des choses dans ta tête et tu ne sais pas comment faire. Alors Dieu te dit ce matin, comme il a dit aux enfants d'Israël, ne crains rien. Reste en place, je combattrai pour toi. C'est ce message que Moïse avait apporté aux enfants d'Israël ce jour-là, et c'est ce message que je veux te partager aussi ce matin. Quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, peut-être que c'est très difficile à supporter, mais Dieu te dit ce matin, ne crains rien, reste en place, je combattrai pour toi. Peut-être que l'Église aussi passe par des moments difficiles. Peut-être que l'Église aussi traverse des temps difficiles et ne semble pas trouver la solution, ne voit pas le bout du tunnel. Dieu parle aussi à l'Église tout entière ce matin. Et Dieu dit à l'Église, ne craignez rien, restez en place, l'Éternel combattra pour vous. Alors il est aussi intéressant de noter que toutes ces choses, toutes ces interventions spectaculaires, toute cette délivrance, ça se passe à Pi-Hahiroth. J'avais dit qu'il fallait retenir ce nom parce que j'allais y revenir. Ça se passe à Pi-Hahiroth. Mais qu'est-ce que c'est que Pi-Hahiroth? La Bible nous montre que c'est un petit village, Pi-Hahiroth. C'est un lieu désertique. Si vous regardez vos cartes à la fin de la Bible, nous voyons que Pi-Hahiroth se trouve dans le désert d'Étham. Donc c'est un lieu désertique. C'est un petit village et on en parle très peu. Même lorsque vous ouvrez votre Bible, dans toute la Bible, il n'y a que deux chapitres où on peut trouver ce nom de Pi-Hahiroth. On trouve Pi-Hahiroth une première fois dans le livre de Exode, au chapitre 14, c'est ce chapitre que nous sommes en train de lire. Nous le trouvons au verset 2 et au verset 9. Et on trouve encore Pi-Hahiroth dans le livre de Nombres, chapitre 33. Après ces deux chapitres-là, vous ne trouvez plus ce nom-là quelque part, Pi-Hahiroth. Donc c'est un village dont on parle peu. C'est un lieu insignifiant. Pi-Hahiroth n'est pas aussi connu que Jérusalem, ni Nazareth, ni Bethléem, ni Jéricho. Donc c'est un lieu dont on parle peu, c'est un lieu insignifiant. Vous pouvez parcourir toute votre Bible. Peut-être même ici, certains doivent se dire, mais c'est la première fois que j'entends ce nom, Pi-Hahiroth. Très peu connu. Mais pourtant, c'est là-bas à Pi-Hahiroth que Dieu s'est manifesté. C'est là-bas à Pi-Hahiroth que Dieu a fait des choses extraordinaires, spectaculaires. C'est là-bas à Pi-Hahiroth que Dieu a délivré son peuple. C'est là-bas à Pi-Hahiroth que Dieu a englouti tous les ennemis d'Israël. Cela veut dire que Dieu agit partout. Dieu se manifeste partout. Jésus-Christ dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là présent au milieu d'eux. Donc, on peut prier dans un lieu qui paraît désertique. On peut prier dans un lieu qui n'attire pas le regard. Où les gens peuvent passer dans la rue sans savoir qu'ici, il y a des gens qui prient. Mais pourtant là, Dieu agit. Pourtant là, Dieu fait des choses extraordinaires, des choses spectaculaires. Souvent, on cherche à aller prier dans des endroits connus, dans des endroits où on voit des belles bâtisses, des basiliques, et ce genre de choses. Mais nous voyons ici que même si c'est dans un lieu désertique, c'est-à-dire là où il y a si peu de gens, même si c'est dans un lieu très peu connu, un lieu insignifiant, un lieu dont personne ne parle, mais Dieu agit là, parce que son nom est invoqué en esprit et en vérité. Donc Dieu agit partout. On n'a pas besoin d'aller dans un lieu spécial, on n'a pas besoin d'aller dans une salle spéciale, mais là où deux ou trois sont assemblés au nom de Jésus, Dieu agit là aussi, comme il a fait à Pi Hahiroth. Alors ta vie est peut-être un désert, où rien ne marche, où rien n'avance, mais Dieu peut aussi agir dans ta vie, comme il a agi à Pi Hahiroth. Alors toi qui es là ce matin, toi à qui Dieu a donné la grâce ce matin d'écouter aussi ce message, peut-être que tu n'es pas satisfait du lieu où tu pries. Peut-être que tu te dis, tu regardes les autres et tu te dis, mais là-bas, il y a des grandes foules. Et là-bas, il y a beaucoup d'échos. On en parle. On dirait que Dieu fait beaucoup de choses là-bas. Et tu as envie d'aller, tu es tenté aussi d'aller voir ailleurs. Dieu te dit ce matin, ne crains rien. Reste en place. Je combattrai pour toi. Tu n'as pas besoin d'aller chercher Dieu ailleurs. Mais là où deux ou trois sont assemblés au nom de Jésus, Dieu est là et il agit. Mais lorsque Dieu dit à ses enfants comme ça, ne crains rien, reste en place, je combattrai pour toi, toi garde le silence, cela ne veut pas dire que on doit rester passif. Cela ne veut pas dire qu'on se croise les bras et puis on attend l'intervention du Seigneur comme ça, non. Le chrétien ne doit pas être dans la passivité. Le chrétien ne doit pas être dans l'oisiveté. Et ici, dans cette histoire du peuple d'Israël, lorsque justement ce moment de panique est arrivé, eh bien, il y a une chose qui retient notre attention, ce jour-là à Pi Hahiroth. Lorsque les enfants de Dieu ont eu peur, on nous dit au verset 10, ils crièrent à l'Éternel. Voilà une chose qu'ils ont faite. Ils crièrent à l'Éternel. Crier à l'Éternel, c'est prier. Crier à l'Éternel, c'est implorer la grâce de Dieu. Et c'est ça que Dieu attend de nous. C'est la première ressource que nous avons qui est à notre disposition lorsque nous sommes justement dans les difficultés, c'est de prier. Prier, prier et prier. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Ça veut dire que nous devons continuer à prier, à prier, à prier, même si nous sommes dans des difficultés, même si nous sommes au pied du mur. La première ressource que nous avons, c'est de prier. Avant d'aller chercher secours à gauche et à droite, prions d'abord. Crions à Dieu. Présentons la situation à notre Seigneur. Dans le livre de Philippiens, au chapitre 4, versets 6 à 7, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc nous avons besoin justement de prier, de ne pas paniquer outre mesure. Parce que lorsque nous prions, Dieu nous donne cette paix qui surpasse toute intelligence. Donc c'est la première ressource, quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème, prions. Présentons la situation à notre Seigneur. Parce que rien ne lui est impossible. Amen. Une deuxième ressource, lorsque cette situation s'est présentée aux enfants d'Israël, eh bien, ils étaient dans la panique, ils ont crié à Dieu, certes, Dieu a ouvert la voie dans la mer, certes, mais ils étaient hésitants. Et Dieu va intervenir, verset 15, L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Dieu demande aux enfants d'Israël de marcher. Marcher ici, c'était un engagement qu'il fallait qu'ils entrent dans la mer, dans ce boulevard que Dieu avait ouvert au milieu de la mer. Mais là aussi, reconnaissons que ce n'était pas facile. Ça devait être très impressionnant de voir que la mer s'est divisée en deux. Tu as un mur d'eau de mer à droite, un mur d'eau de mer à gauche, et tu dois entrer au milieu. Tu ne sais pas à quel moment ces murs-là peuvent s'écrouler. Et s'ils s'écroulent, tu es englouti. Donc, ils devaient hésiter, ils devaient avoir peur de rentrer. C'est pour ça que Dieu donne ici un ordre, verset 15, « Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. » Il faut s'engager, il faut marcher, il faut avancer. Et donc, voilà, les enfants d'Israël, ce jour-là, après avoir reçu cet ordre, ils ont marché et finalement, ils ont traversé la mer. Ils sont arrivés de l'autre côté. Mais quand c'est le Seigneur qui ouvre la voie, comme cela s'est passé ici, quand c'est le Seigneur qui t'ouvre un boulevard devant lui, comme cela s'est passé ce jour-là, c'est facile de marcher là-dedans. C'est facile d'avancer là-dedans. Mais parfois, nous marchons dans des voies qui ne sont pas ouvertes par le Seigneur. Parfois, nous nous engageons dans des directions qui ne correspondent pas à la volonté du Seigneur. Et à ce moment-là, on n'avance pas. À ce moment-là, on a des difficultés pour marcher. Mais ici, c'est Dieu qui avait ouvert le boulevard. C'est Dieu qui avait ouvert la voie. Et il a dit, marchez. Et ils ont pu marcher. Ils ont pu atteindre l'autre rive. Mais nous savons dans cette histoire que nous avons lue que lorsque les Égyptiens ont voulu faire la même chose, ils se sont engagés certes, mais ils n'ont pas pu traverser la mer. Ils ont été engloutis. Mais celui qui reçoit donc cette instruction du Seigneur de marcher, de s'engager dans un boulevard que le Seigneur lui-même a ouvert, eh bien celui-là, il va avancer, il va croître. Donc marcher ici, ce jour-là, c'était pour marcher dans la mer, mais marcher aussi prend le sens de suivre le Seigneur. Marcher prend aussi le sens d'avancer avec le Seigneur. Jésus-Christ dit dans Luc 9, 23, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc il a besoin que nous le suivions. Nous avons besoin de suivre le Seigneur. Nous avons besoin d'être derrière lui et de le suivre, de marcher avec lui. Ça, c'est la recommandation qu'il nous donne. Nous devons marcher avec lui, nous devons le suivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Parce qu'il est trois fois saint, et on ne peut pas marcher avec lui dans la souillure. On ne peut marcher avec lui que dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la sanctification. Nous devons marcher avec lui en mettant en pratique la parole de Dieu. Nous voyons dans cette histoire du peuple d'Israël que chaque fois ils ont obéi. Lorsqu'ils se sont trouvés dans la peur, Moïse leur a dit, ne craignez rien, restez en place, gardez le silence. Ils ont obéi et ils ont vu la main de Dieu. Lorsqu'on leur a dit, maintenant marchez, entrez là dans la mer, ils ont obéi et ils ont pu traverser. Sans obéissance, on n'avance pas avec le Seigneur. Si on ne met pas en pratique la parole de Dieu, on n'avance pas avec le Seigneur. Jacques 1, 22 nous dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Donc la deuxième ressource que nous avons dans ce genre de problème, dans ces difficultés, c'est de marcher dans l'obéissance. C'est de rester attaché au Seigneur et d'avancer avec lui dans l'obéissance. Mais souvent, lorsque nous nous trouvons dans des situations difficiles, nous avons tendance à baisser les bras. Nous avons tendance à nous lasser, à dire, bon, je suis fatigué, je n'arrive même plus à prier, je ne vais même plus aller au culte parce que je suis dépassé, j'ai des problèmes et puis ça ne marche pas. Mais nous voyons ici au contraire qu'il faut rester attaché, il faut marcher, marcher dans l'obéissance. C'est lorsque les enfants de Dieu ont marché que la mer s'est ouverte. S'ils n'avaient pas marché, cette ouverture-là allait se fermer. Mais il fallait qu'ils marchent parce que cette ouverture avait été faite pour eux, pour qu'ils traversent la mer. C'est lorsqu'ils ont marché que c'est resté ouvert. Après leur passage, ça s'est refermé. Tous ceux qui sont venus après, les Égyptiens, ils n'ont pas pu traverser, ils ont été engloutis. C'est lorsqu'ils ont marché qu'ils ont expérimenté la délivrance. Eux qui étaient poursuivis et qui se sentaient au bout du rouleau, au pied du mur. Mais quand ils ont marché, quand ils ont obéi, eh bien, Dieu s'est occupé des ennemis. Dieu a détruit les ennemis. Donc, bien-aimés, quelle que soit la situation que nous traversons, si nous marchons avec le Seigneur, si nous marchons dans l'obéissance, eh bien, Dieu nous fera passer là où personne d'autre ne pourra passer. Parce que là où les enfants d'Israël sont passés, personne d'autre ne peut passer là-bas. Donc, si nous marchons dans l'obéissance, il nous fera passer aussi là où personne d'autre ne passera. Si nous marchons dans l'obéissance, Dieu ouvrira devant nous des voies inaccessibles à tout le monde. Dieu ouvrira des portes devant nous. Dieu ouvrira des boulevards devant nous, comme il a fait ce jour-là dans la mer. C'était une ouverture que personne ne pouvait attendre. Personne ne croyait à cela. Mais Dieu a ouvert la mer ce jour-là. Donc, si nous marchons dans l'obéissance, Dieu nous ouvrira aussi des portes. Dieu nous ouvrira aussi des boulevards. Si nous marchons dans l'obéissance, Dieu mettra la confusion dans le camp de nos ennemis, comme il a fait pour les Égyptiens. Ce jour-là, les Égyptiens qui savaient galoper, qui savaient avancer avec les chars, ils n'ont pas pu galoper. Parce que les roues se cassaient, se démontaient, ça allait dans tous les sens, il fallait chaque fois réparer, ils ne pouvaient pas avancer. Dieu met la confusion dans le camp de l'ennemi lorsque nous marchons dans l'obéissance. Et si nous marchons dans l'obéissance, Dieu nous délivrera de toutes les situations, quelles que soient les situations dans lesquelles nous pouvons passer, parce que rien ne lui est impossible. Mais ce qu'il nous demande ce matin, le message qu'il nous apporte ce matin, c'est que quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, il nous dit, ne craignez rien, restez en place, je combattrai pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse.